15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. C'est tous les jours de 15h à 16h pendant une heure avec le docteur Jimmy Mohamed, notre médecin européen. Nous tentons de vous éclairer sur les sujets de santé qui vous préoccupent et justement, comme tous les jours, mais je vais vous dire la vérité avec un peu de retard, j'ai cru que vous n'arriveriez jamais, Jimmy, vous m'avez fait un peu peur.
J'étais pas
vous
loin.
Vous êtes là.
J'étais à côté en réalité.
Ouais, mais c'était une blague qui n'était pas drôle du tout.
Bah, ça fait rire Benjamin, ça fait rire toute l'équipe. Tout le monde était au courant,
ouais,
sauf vous d'ailleurs.
Voilà. Mais bon, j'ai failli présenter l'émission toute seule,
mais
il est là. Alors, au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré à notre peau. Ça y est, l'été est là et on aimerait tous avoir déjà le teint à aller qui nous donne si bonne mine. Alors, faut-il vraiment préparer sa peau au soleil? Y a-t-il des compléments alimentaires ou des soins efficaces pour ça? Comment bronzer sans risque? Et puis après, comment prendre soin de ce bronzage que l'on voudrait faire durer le plus longtemps possible? Nous ferons le point avec la dermatologue Laurence Netter. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien. Un sujet beauté aujourd'hui pour celles ou ceux, pourquoi pas, qui trouvent leurs cils trop courts ou trop peu fournis. Nous ferons le point sur l'extension de cils. Je suis sûre que le docteur Jimmy Mohamed sera tout ouïe. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de certains détails de la vie sexuelle qui peuvent dégoûter certains.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première question, c'est celle de Geoffrey.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Je vous appelle aujourd'hui parce que mon médecin m'a prescrit un échodroppler à faire au niveau des jambes. J'ai fait des recherches sur Internet, mais ils disent un peu tout et n'importe quoi. Et je voulais savoir un petit peu comment ça allait se passer, si vous pouviez me dire en quoi ça consiste. Merci à vous, bonne journée.
Alors, je pense qu'il parle de l'écho Doppler et pas l'écho Droppler, c'est pas grave. Jimmy, vous allez nous en dire plus sur cet examen. Je suis bien contente que vous soyez là parce que j'aurais pu donner 2-3 notions sur l'écho Doppler, mais avec vous, je suis sûre que ce sera plus complet. Dans l'écho Doppler, il y a écho et il y a Doppler. Ça veut dire que ça couple, j'imagine, deux techniques.
Et oui, c'est un duo, un peu comme vous et moi, Mélanie. Ils sont complémentaires. Ils vont dans la même direction, mais ils ne servent pas tout à fait à la même chose. Alors, l'échographie, c'est un système très simple. C'est des ultrasons qui vont en ligne droite et elles vont rencontrer parfois des obstacles. Ça peut être du tissu, un os ou de l'eau. Et à ce moment-là, elles vont créer un écho et on mesure cet écho à l'aide de l'échographie. On a des images qui se dessinent. Eh bien, pour le Doppler, c'est exactement la même chose. On va mesurer les turbulences qu'il peut y avoir dans les vaisseaux sanguins,
dans le flux sanguin
pour voir dans quel sens le flux va. Est-ce que c'est turbulent ou pas? Est-ce que c'est d'une bonne intensité ou pas? Et là, en ce moment, on en prescrit pas mal, souvent dans la recherche de cas de phlébite, surtout avec la période de Covid. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de phlébite et il faut être très méfiant, car des personnes qui ont eu le Covid au mois de mars peuvent développer...
C'est une maladie vasculaire, hein, le Covid, on se rend compte de plus en plus.
Peuvent développer encore des phlébites 2 ou 3 mois après, voire même des embolies pulmonaires. Donc, il ne faut pas négliger tout symptôme que peut avoir notamment une douleur au niveau du mollet.
Très bien. Alors Geoffrey là, nous dit qu'il doit passer un écho Doppler donc au niveau de la jambe. Ça sert à quoi à ce niveau-là? Donc vous disiez la phlébite, mais on peut le faire à d'autres endroits du corps?
Alors oui, les cardiologues s'en servent notamment dans la recherche de valvulopathie. Quand vous avez une valve qui marche moins bien, le sang circule mais de moins bonne qualité. Il fait parfois du retour et donc on peut mesurer un flux. Ça marche aussi dans les échographies obstétricales. On peut mesurer le flux sanguin avec un Doppler au niveau du placenta et du vaisseau du bébé. Ça peut marcher au niveau des carotides. Bref, dès qu'il y a du vaisseau, on peut mesurer ça, mais l'utilisation préférentielle, celle que tout le monde connaît, c'est la recherche de phlébite. Et donc à ce moment-là, on voit s'il y a un obstacle, un caillot, le flux ne passe pas et parfois il y a même un reflux, vu que le sang est bloqué par un obstacle.
Est-ce qu'il y a une préparation particulière quand on doit passer cet examen? Est-ce qu'il faut boire quelque chose?
Non, on y a jeun, vous venez tel que vous êtes, un peu comme dans certains fast-food, et ça dure pas très longtemps, c'est indolore et surtout vous avez le résultat tout de suite.
30 minutes, ça dépend de combien on doit investiguer.
Exactement, et c'est opérateur dépendant, mais vous avez le résultat tout de suite vu que l'opérateur est en face de vous.
Très bien Jimmy, merci beaucoup pour ces précisions. On va passer à la deuxième question d'auditeur, cette fois c'est celle de Hawa qui a 29 ans.
Oui, bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. En fait, j'avais une petite question. Je me demandais si c'était risqué de dormir avec des tampons la nuit parce que ma mère m'a toujours dit de dormir avec une serviette. Voilà, merci beaucoup pour vos réponses.
Alors Jimmy, les tampons, effectivement, si la maman d'Awa lui donne ce conseil, c'est parce qu'elle a dû entendre parler, j'imagine, d'un risque qui est particulier, qui est spécifique à ces derniers, à savoir le choc toxique, le syndrome de choc toxique. Rappelez-nous ce que c'est.
Alors déjà, c'est très très grave. C'est une cause de mortalité très importante, vu qu'il y a souvent un retard diagnostique. Les symptômes sont peu spécifiques, on a de la fièvre, on a mal au ventre, parfois des pertes, et puis on s'en rend compte à un stade très tardif. Heureusement, c'est très grave, c'est une personne
c'est
sur 100 000.
C'est très rare.
C'est très rare,
c'est très grave,
c'est très grave, mais c'est très rare. C'est une personne sur 100 000 et c'est lié à une bactérie, un agent pathogène qu'on appelle le staphylocoque doré. Alors, c'est une bactérie qu'on a de façon naturelle dans 30 à 40% des gens.
On peut l'avoir dans le nez, on peut
exactement, l'avoir... Exactement, dans le rectum, et vous pouvez en avoir dans le vagin. Sauf que cette bactérie, elle a une particularité, c'est que dans 1% des cas, elle va sécréter une toxine qui est responsable de ce choc, mais cette toxine, elle ne suffit pas pour avoir ce choc, il y a d'autres conditions nécessaires.
Et c'est donc parfois le cas, ce syndrome de choc toxique, ça peut, c'est pas que dans l'usage de tampons, mais ça, c'est le cas. Hein.
Essentiellement parce qu'en fait, quand vous mettez des tampons avec un pouvoir super absorbant, ou que vous laissez très longtemps ce tampon, eh bien le staphylocoque va proliférer, il va s'accumuler, et lorsqu'il s'accumule, il peut devenir pathogène et créer cette bactérie. Et dans un cas sur deux, on retrouve l'utilisation d'un tampon qui a mal été utilisé, donc un pouvoir super absorbant ou trop longtemps.
Justement, rappelez-nous rapidement quelles sont les règles primordiales quand on porte des tampons. Donc la nuit, on oublie a priori.
Exactement, c'est très efficace, il faut se laver les mains évidemment avant de le mettre, éviter de le porter la nuit, donc ça veut dire mettez-le 4 à 8 heures et si vous faites de longues nuits, mettez plutôt une serviette qui est plutôt absorbante et quitte à la changer. N'oubliez pas d'enlever le tampon et ne mettez pas des tampons en prévention de vos règles,
oui,
attendez de les avoir.
Ça, ouais,
et encore une fois, achetez des tampons avec le pouvoir absorbant minimum, on évite les trucs super absorbants même si c'est pratique, ça peut être facteur de risque dû à ce syndrome toxique.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Awa qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons accueillir notre invitée, la dermatologue Laurence Netter, avec qui nous allons aborder un sujet qui va vous donner un petit air de vacances, comment préparer sa peau au soleil et aussi comment en prendre soin pendant toute cette période estivale qui démarre. On en parle dans quelques minutes. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, Laurence Netter. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes dermatologue à Paris et avec vous aujourd'hui, donc, on va parler de la peau en été, de la peau que certains ont envie d'essayer de préparer au soleil. En ce moment, on va commencer par ça d'ailleurs, cette soi-disant préparation de la peau avant de s'exposer un petit peu durant l'été. Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Parce qu'on entend déjà, comme chaque année, un peu les mêmes bêtises. Alors nous, c'est vrai qu'on a l'habitude, mais notamment on entend parler des UV qui prépareraient la peau au soleil. Je parle des UV dans les cabines. Hein. Qu'est-ce qu'on en dit là-dessus?
Oui Mélanie, alors c'est une fausse idée. Et là, il faut lui tordre le cou définitivement.
Allez, cette fois-ci,
définitivement,
c'est la dernière.
Définitivement, ouais. On y va. Ce qui nous protège du soleil, c'est des UV qui sont toxiques, c'est le bronzage. Le bronzage est effectivement une réaction de défense pour que les UVB ne soient pas trop délétères. Quand on va dans une cabine de bronzage, ce sont à 95% des UVA. Or, ces UVA n'ont pas du tout de capacité à fabriquer la vraie mélanine. La vraie mélanine, elle est synthétisée par les UVB et en plus, ces UVB augmentent l'épaisseur de la peau. Les kératinocytes, qui sont les cellules les plus superficielles, vont s'épaissir de façon à rendre la peau plus solide et plus résistante aux UVB. Or, les UVA que vous trouvez dans une cabine, c'est ce qu'on appelle un peu le bronzage du soir. C'est un bronzage qui est très peu protecteur et qui ne sert strictement à rien.
Et qui favorise le cancer de la
peau,
en plus.
Et c'est des UV, ouais. En plus. C'est des UV qui s'accumulent. Et on a un capital et il faut vraiment le préserver. Gardez-le pour la plage, aux bonnes heures.
Mmh. Jimmy.
Alors les UV, on les laisse tranquilles. On a eu un hiver assez rose, puis on a été confiné. Est-ce qu'il faut préparer sa peau au soleil ou est-ce qu'on peut aller s'exposer directement
sans préparation,
Ouais. et profiter?
Il n'y a pas de vraie préparation au soleil. Ce qu'il faut avoir, c'est la bonne attitude lors des premiers soleils. Alors on peut éventuellement prendre des antioxydants.
J'allais dire des compléments alimentaires.
Des compléments alimentaires.
Alors, il y en a plein à base de carotène,
oui,
de bêta-carotène.
Il y a pas d'études qui ont prouvé que ces antioxydants pris par la bouche allaient augmenter le bronzage.
Parce que là, les gélules, il y en a dans toutes les pharmacies.
Oui,
hein.
Et en plus diminuer le cancer. Si, un petit peu, ça fait quelques années, cette fameuse étude Suvimax qui a étudié les répercussions de l'apport en vitamines et en oligo-éléments a montré qu'il y avait un peu moins de cancer de la
peau
chez les hommes. Chez les hommes encore, pas
chez
les femmes. Parce qu'en fait, les femmes, à cette époque-là, se nourrissaient mieux, étaient probablement mieux préparées.
Ouais.
Alors, si on veut faire quelque chose, eh bien, on mange bien, mais ça c'est pour tout, et surtout des produits colorés qui sont très riches en bêta-carotène, tout ce qui est orange, tout ce qui est
tous les
rouge.
Les couleurs comme ça.
Voilà,
hein,
exactement. On
les
a
tomates,
des anti, voilà, ouais. Les tomates. On a des antioxydants dans l'alimentation. Il faut en profiter.
Donc vous vous en prescrivez jamais de ces gélules parce que celles qu'on voit, bon, il y a quand même des compléments dedans. Si on veut en prendre, on en prend à quelle période? Imaginons, je suis en vacances dans 15 jours. C'est maintenant qu'il faut les prendre. Pendant combien de temps? Comment ça
Alors,
se passe?
Alors j'en prescris pour
ouais,
être franche. J'en prescris parce que en aucun cas, en tout cas, c'est méchant. Ça ne peut être que bénéfique. On n'a pas d'études très solides. En règle générale, j'en prescris surtout dans la lucide, c'est-à-dire les gens qui ont tendance à faire des allergies. Mmh. Est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas? Ça dépend un petit peu des études. En général, je les prescris 15 jours avant, en doublant la dose qui est sur la boîte et en continuant pendant les vacances.
À un moment d'exposition, on continue à dose plus basse.
Je serais incapable de vous dire aujourd'hui, parce qu'aucune étude n'a vraiment prouvé. Il faudrait suivre les patients qui ont pris des antioxydants sur une très longue période et vérifier le pourcentage de cancer après par rapport à une population témoin. Vous voyez, c'est déjà compliqué.
Jimmy, il n'a pas besoin de prendre de gélules, hein. Il a déjà bonne mine. Allez.
Exactement. Est-ce que vous les conseillez peut-être un peu plus à des sujets qui ont la peau claire ou pas spécialement? Finalement, tout le monde pourra en prendre, même si on est mat de peau ou même noir?
Tout le monde peut en prendre. Là, le problème du phototype, vous me parlez de couleur de la peau, ça s'appelle le phototype. C'est surtout la résistance de votre peau au soleil. C'est sûr qu'un noir va beaucoup mieux réagir au soleil. Il y a beaucoup moins de mélanomes, ce cancer qui est très grave, chez le noir que chez le blond. Donc, plus on a un phototype bas, peu élevé,
clair,
plus
de rousse
clair, et... exactement.
Ouais.
Alors
c'est
le
moi,
phototype,
quoi.
C'est la couleur, voilà, Mélanie.
Les taches de rousseur, les cheveux roux, la peau blanche, et voilà.
Et la capacité à bronzer.
Ah, j'en ai pas.
Voilà. Rousse, c'est pas la peine d'essayer de le mettre au soleil.
Tous les étés.
Voilà. Vous allez brûler, vous allez brûler, vous ne bronzerez pas.
Oui, ça ne donnera pas une protection particulière, donc
non,
c'est un peu illusoire
non,
de croire
c'est
que
pas, c'est
on
pas
va soit devenir carotte, être un orange ou
ces antioxydants, en fait, quand on est au soleil, on fabrique des radicaux libres. Et ce sont ces radicaux libres qui sont très délétères pour la cellule et qui entraînent des mutations génétiques. Les antioxydants, par définition, ça les capte. Mmh. Et donc, on va en avoir un peu moins encore à vérifier. Mais de toute façon, le plus important, c'est d'avoir la bonne attitude au soleil. Comment utiliser au mieux le soleil?
On va y venir, ça tombe bien, docteur Netter. On fait que commencer cet entretien, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons continuer donc cet entretien sur les soins qu'il faut apporter à notre peau en été. On va parler surtout bronzette, évidemment, dans la partie suivante. Pourquoi? On veut tout savoir, au moins un petit temps à aller au retour des vacances. Surtout, comment y arriver sans mettre sa peau en danger? Comment choisir la bonne crème solaire? On vous explique tout ça dans quelques toutes petites minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, évidemment. Et notre invité, c'est vous, docteur Laurence Netter. Vous êtes dermatologue à Paris. Alors aujourd'hui, on fait le point sur notre peau et les soins qu'il faut lui apporter durant la période estivale. Alors que ce soit pour la garder en forme, mais aussi pour avoir quand même, on en a tous envie, un joli teint hâlé, sans prendre de risques. Pour bronzer donc en toute sécurité, la crème solaire, évidemment, c'est le passage obligé. Mais comment on la choisit, cette crème solaire, alors?
La crème solaire se choisit en fonction de deux critères. Le critère phototype, c'est-à-dire la couleur de votre peau et la capacité de votre peau à bronzer, et puis la destination des vacances. Si vous allez à la campagne, vous n'allez pas choisir le même écran que si vous allez gravir le Mont Blanc.
Ça n'est pas du tout... Ou sous les tropiques, c'est pareil. Ouais.
Exactement. Et donc, on choisit son écran en fonction de ces deux critères. Il faut quand même savoir que même un écran 50 ne protège...
Ce qu'on appelait avant l'écran total, mais on ne le dit plus.
Alors aujourd'hui,
maintenant,
c'est fini. Ouais, il y a eu cette guerre des indices. Chaque labo sortait un indice de plus en plus élevé.
Mais avec ça, on ne bronze pas. Avec l'écran total, le 56, on bronze?
L'écran 50 n'est en aucun cas total. En aucun cas. Ouais. Moi, je dirais même que ce n'est pas la peine d'aller mettre un 30 et un 20. Un 20, ça ne protège de rien du tout. Mm-hmm. Il faut mettre quasiment du 50
tout le
temps sur le visage. Mais c'est important, l'écran. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qui est le plus important, c'est de savoir s'exposer au soleil. Il faut vraiment éviter, si vous avez le teint pâle, que vous êtes au-dessous les tropiques, il ne faut pas aller au soleil entre midi et 4 heures. C'est à ce moment-là qu'il y a le plus d'UV, que l'on brûle le plus, les UV. B, pardon, ce sont ceux qui brûlent et qui donnent
le coup de soleil.
Le coup de soleil. Mmh. Et donc, il faut préférer
le matin.
Le matin et plus tard dans l'après-midi.
Mmh. Jimmy.
Mais si on bronze, même avec un écran d'indice 50, pourquoi est-ce qu'on autorise les écrans d'indice plus bas, le 10, le 20? Parce qu'il doit y avoir quand même une différence. D'ailleurs, c'est quoi un indice? Pourquoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que c'est que les indices?
Important.
Et est-ce qu'on bronze vraiment autant? Parce que c'est ce qui revient dans la tête des gens. Non, je ne mets pas d'indice 50.
Je veux bronzer.
Je suis là pour une semaine, je veux bronzer. Et donc, ton indice 50, tu peux te le garder.
Alors, qu'est-ce que c'est que l'indice? L'indice, c'est... Comment vous expliquer simplement? Si vous êtes au soleil, quel que soit votre type de peau, que vous soyez noir ou que vous soyez roux, si vous êtes en plein soleil et que sans aucun écran, vous brûlez, vous prenez un coup de soleil en une minute. Si vous mettez un écran 50, vous allez prendre ce même coup de soleil en 50 minutes. Si vous mettez un écran 30, vous prendrez ce même coup de soleil en 30 minutes. Voilà, c'est le coefficient.
On multiplie. Ouais.
Par lequel on multiplie l'ADEME, la dose érythémateuse minimale, pour prendre un coup de soleil.
Vous bronzez en combien de temps? Si vous mettez donc, sans rien, vous allez attraper un coup de soleil.
Alors moi, je suis un psychopathe, la crème solaire tout le temps. Même si j'ai beau avoir la peau mate, donc ça n'empêche pas de bronzer.
Ça n'empêche pas de bronzer, vous brunissez juste un tout petit peu plus lentement. Or, plus vous allez brunir lentement, moins vous allez brûler votre peau de toute façon et plus le bronzage va durer longtemps. Donc, à tous les coups, vous êtes gagnant.
Est-ce que ma crème de l'an dernier, parce que bon, je dis l'an dernier, ça peut être éventuellement même l'avant-été dernier, voire l'avant-avant-été dernier, quand je l'ai encore dans mes placards, depuis qu'elle est périmée depuis 2 ans, 1 an, est-ce que je peux encore l'utiliser?
Vous le dites vous-même, elle est périmée.
Oui, un mais produit, bon, je me dis, ça non, peut, on sait produit, bien que les choses dépassent parfois la date inscrite sur l'emballage.
C'est un problème de stabilité des écrans au soleil. Un produit ouvert se garde 6 mois. Je dirais qu'un produit ouvert, quand c'est un solaire, qui a traîné à la chaleur sur
en
la
plus,
plage, dans le sable et
donc
tout,
faut chaque été, il faut en changer.
Il faut
en
le jeter. Maintenant, un produit qui est fermé, il y a une date de péremption dessus. Donc, on peut l'utiliser si on n'a pas dépassé sa date de péremption.
Jimmy.
Je suis aussi un papa averti et donc je mets de la crème solaire aux enfants. Et d'ailleurs, spontanément, je me tourne vers des crèmes spéciales enfants de crème solaire. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on a besoin des crèmes adaptées?
Nécessaire.
Ou c'est marketing?
C'est nécessaire. Non, ce n'est pas marketing. On a en fait 2 types de filtres, ce qu'on appelle les filtres chimiques, qui rentrent dans la peau et qui font une réaction chimique au niveau de la peau, qui sont des filtres qui sont assez cosmétiques, qui ne laissent pas de traces blanches, et des filtres physiques, minéraux, qui, eux, reflètent les UV. Et c'est vrai qu'ils sont un petit peu moins cosmétiques, c'est un peu comme du
talc. C'est tout blanc, ouais, c'est ça.
Un petit
les
peu,
crèmes des enfants,
mais aujourd'hui, il y a
plus difficile
tellement
à appliquer,
de progrès.
Hein.
Et puis, il y a des produits qui contiennent les deux. Les filtres chimiques peuvent être à l'origine d'allergies. Donc, pour les enfants, on préfère les filtres minéraux. Quand vous voyez sur le tube écran pour enfants, c'est a priori que c'est un écran non chimique. Donc, il faut préférer ces filtres-là.
Et la petite chose qu'on m'avait dite en préparant cette émission, c'est que ces filtres chimiques, dont la crème pour les enfants, on peut la mettre au dernier moment, une fois sur la plage, parce que ces filtres minéraux, bah, ils ont tout de suite l'effet, alors que nos crèmes à nous pour adultes...
Filtres...
Alors, expliquez-nous mieux que moi.
Les filtres pour enfants, oui, ce sont des produits physiques. Vous l'étalez sur la peau et ils vont renvoyer les UV.
C'est comme s'il y avait un t-shirt un peu anti-UV sur la peau.
Voilà. Vous pouvez le mettre au dernier moment. Les filtres chimiques, ils ont besoin de pénétrer dans la peau et donc il faut les mettre en général 20 minutes avant l'exposition solaire. Ce qui fait que la plupart du temps, eh bien, on arrive à la plage, on y arrive à pied, on ne s'est pas protégé, on s'installe, on se met sur son transat,
et les 20 minutes avant que ça fasse effet, bam,
voilà, on profite, on se dit, bon, dans 20 minutes, je vais commencer à mettre ma crème. Bon, mais là, ça y est, vous avez déjà brûlé. Donc, il faut y penser avant d'arriver à la plage.
Docteur Netta, on va faire une courte pause et on continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes. Europe 1. Sans rendez-vous, reviens dans un instant. Nous allons maintenant passer au conseil plutôt après solaire. Si malgré tout, on a attrapé un coup de soleil, alors c'est pas bien, mais comment le soigner? Comment réparer un peu sa peau quand on pèle? Même si bien sûr, il est préférable d'éviter tout ça. Et puis pour ceux qui ont réussi à obtenir quand même un joli bronzage sans prendre de risques, comment le faire durer le plus longtemps possible? On en a tous envie, alors on vous détaille tout ça juste après. Restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1. Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, c'est vous, docteur Laurence Netter. Vous êtes dermatologue à Paris. Alors, il est quand même certain, qu'il y a pas mal de gens qui vont, malgré tous les conseils que vous venez nous donner, attraper des coups de soleil. D'ailleurs, on dit attraper, mais bon, enfin, c'est pas vraiment correct. Hein. Comment on le soigne, un coup de soleil, quand malgré tout, il est là?
On ne devrait plus avoir à les soigner,
je sais,
Mélanie,
vous avez pas ça, mais
on devrait plus.
Je suis toute rouge, je l'ai attrapée. Qu'est-ce que je fais, docteur ?
Alors, première chose, la plus importante, se mettre à l'ombre. Bon. Très important.
Déjà.
Ensuite, il
En général, on voit le soir, une fois qu'on est rentré de la plage, ah, on est déjà
venir.
À l'ombre.
Ouais. On sent venir. Ouais. Et puis, les personnes qui ont des coups de soleil savent qu'ils vont attraper des coups de soleil. Ils sont imprudents. Alors, on se met à l'ombre, on achète des produits post-solaire. Quasiment toutes les gammes solaires ont un produit post-solaire.
Ça, non plus, ce n'est pas marketing, c'est utile. Hein. Ça,
c'est
vraiment
utile,
ces produits.
Ce sont des petits anti-inflammatoires. D'accord. C'est utile, c'est très peu
utile. Si je mets une crème hydratante, c'est pareil.
Mieux vaut mettre un produit post-solaire, parce qu'il y a un petit anti-inflammatoire. Et puis, on peut mettre des produits, sans citer des produits qu'on connaît bien, cicatrisants, comme la Biafine, le Cicaplast, l'Aquaphore, tous ces produits qui cicatrisent.
Ça, c'est bien
aussi.
Beaucoup
boire, parce qu'en même temps, on s'est déshydraté la plupart du temps.
La peau s'est remplie d'eau.
Et puis,
donc,
si vraiment la brûlure est trop importante, les dermatologues peuvent donner de la cortisone.
Jimmy.
Une fois qu'on a pris le coup de soleil, est-ce qu'on est tranquille? Est-ce qu'on peut se dire, bon, bah, ça y est, certains disent ça, j'ai cramé. J'attends un ou deux jours et c'est reparti, je peux me réexposer au soleil, je suis protégé vu que ça y est, j'ai mon bronzage qui est là.
Mais vous connaissez la réponse, Jimmy, certainement pas, vous avez pris un coup de soleil.
On peut se remettre au soleil au bout de combien de temps ?
On peut pas se remettre au soleil quasiment, vos vacances sont très abîmées pour pas dire foutues.
Fichu, carrément.
En fait, le coup de soleil, vous avez abîmé votre couche superficielle, or le bronzage qui, lui, doit être acquis progressivement et est fait en partie de l'épaississement de la peau, comme je vous disais en début d'émission, de façon à ce que la peau devienne plus solide et plus résistante aux UV. Là, vous avez abîmé votre peau, vous êtes peut-être allé jusqu'à la cloque, et donc l'épaisseur de la peau, elle est devenue
rikiki.
Cette petite peau rosée que vous avez, vous allez attraper un coup de soleil encore plus rapidement.
Et encore plus dangereux pour la santé.
Voilà, en vous réexposant. Donc, plutôt que de savoir quand est-ce que je vais pouvoir me mettre au soleil, j'ai envie de vous dire, faites tout pour ne pas l'attraper, ce coup de soleil.
Donc plus jamais,
et
ça veut dire qu'on a loupé ses vacances, quoi.
Il faut y aller très progressivement. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu comme le Covid. On entend, tout le monde entend les mêmes choses, on sait s'exposer. Donc les personnes qui vraiment prennent des coups de soleil, c'est vraiment, ils n'ont pas respecté ces règles basiques qui sont progressivement, pas entre midi et 4 heures, restez à l'ombre, protégez-vous dès que vous sentez le moindre coup de soleil, parce que le coup de soleil, en fait, il est utile. Le coup de soleil, c'est une alerte de l'organisme pour vous dire « Stop, là, c'est fini, les UVB sont en train de vous brûler, rentrez ».
Alors, on va parler de ceux qui, on l'espère, sont le plus nombreux, ont juste bronzé sans risque cet été. On a un beau bronzage. Alors bon, on est un peu tôt là dans l'été encore, mais pour ceux qui vont partir bientôt en vacances, peut-être. À la fin de l'été, on a un beau bronzage. Combien de temps ça dure, le bronzage, une fois qu'on a bien bronzé en sécurité ?
Alors, la peau se renouvelle. Le cycle, c'est à peu près 21 jours.
Donc, 3 semaines, quoi.
Donc, 3 semaines à peu près. La peau desquame est renouvelée par de nouvelles cellules.
Si on fait un gommage, on va perdre le bronzage ?
Non. On perd les cellules mortes. Et comme ces cellules mortes donnent un teint un petit peu grisâtre et terne à la peau, on peut effectivement, au retour des vacances, faire un léger gommage pour éliminer les cellules mortes. On n'enlève pas la mélanine,
donc
on n'enlève pas
le
pigment.
Là, ouais.
Et on peut éventuellement mettre des autobronzants. Les autobronzants, ce sont des molécules qui provoquent une oxydation de certaines cellules et qui donnent un teint. Aujourd'hui, les produits sont très, très bien formulés. Ça ne fait quasiment pas de traces, surtout quand on est déjà bronzé. Et ça maintient cette illusion de vacances.
Mais sinon, c'est 3 semaines et pas plus. Jimmy.
Les adolescents qui ont de l'acné sont souvent contents du soleil puisque le bronzage permet, en tout cas en superficie, d'améliorer les petits boutons qu'on peut avoir. Est-ce que c'est une bonne idée ?
Alors, c'est difficile d'expliquer à un adolescent ne te mets pas au soleil alors qu'il voit effectivement son acné s'améliorer pendant l'été. Effectivement, le soleil a une action antiseptique, anti-inflammatoire et pendant l'été, l'acné va mieux. Mais toujours comme je vous l'avais expliqué, la peau s'épaissit au soleil et on a tendance à la rentrée au mois de septembre à avoir des microkystes partout parce que les glandes sébacées qui sont hypertrophiées...
C'est la bombe à retardement.
Ah, voilà, c'est un peu ce que je dis toujours, c'est la bombe à retardement. Bon, malgré tout, on sait traiter l'acné. Alors, ce qui est important aussi, c'est de dire aux ados...
Ou même aux plus grands qui ont de l'acné.
Ou même aux plus grands, l'acné de la femme adulte, aujourd'hui, c'est une réalité. Il faut se protéger, mais il faut utiliser des crèmes pour peau à tendance acnéique. C'est-à-dire
des crèmes solaires.
Des crèmes, oui. Ce sont des formulations qui ne contiennent pas trop de gras, qui sont formulées pour les peaux grasses. Souvent, c'est marqué oil control ou oil free ou pour peau à tendance acnéique.
Vraiment,
c'est
il faut aller sur ces produits-là. Ouais.
Et comme en plus, on est censé en remettre plusieurs fois dans la journée, on n'hypergraisse pas sa peau et donc on ne rajoute pas à l'effet comédogène du soleil l'effet comédogène du gras qu'on va mettre.
Et pour terminer, pour ces personnes qui ont des problèmes de peau, on va dire le reste de l'année, moins l'été certes, mais ces gens-là prennent parfois des médicaments anti-acné. Petit message très important, les arrêter à la période où il y a beaucoup de soleil.
Alors, normalement, c'est au dermatologue, quand il prescrit un médicament, de dire à son patient, attention, tétracycline,
Donc n'arrêtez rien tout seul, demandez à votre dermatologue.
Photosensibilisant, ne prenez pas ce médicament au soleil. Il y a également des produits, des crèmes, le peroxyde de benzoyle, qu'on retrouve dans beaucoup de préparations que l'on met pour l'acné. Il ne faut pas se mettre au soleil avec. On peut faire une petite pause pendant l'été, prendre du zinc de temps en temps. Il y a des produits qu'on peut utiliser pendant l'été.
Merci beaucoup, docteur Netter, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Grâce à vous et vos conseils, bien sûr, nous allons pouvoir prendre soin de notre peau comme il faut cet été. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique, les bobos du quotidien. Et aujourd'hui, un sujet beauté pour celles et ceux, pourquoi pas, qui trouvent que leurs cils sont trop courts ou trop peu fournis. Nous ferons le point sur l'extension de cils. Le docteur Jimmy Moed nous a préparé des infos très précises sur le sujet. Vous verrez, à tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Aujourd'hui, focus sur l'extension de cils. Savez-vous comment ça se déroule? Pourquoi? Qui doit le faire en particulier? Justement, notre journaliste tout-terrain Benjamin Lévesque a été vous poser toutes ces questions. On écoute son micro-trottoir.
Des extensions de cils, j'en ai jamais fait, je sais pas comment ça se passe, je connais les faux cils.
Oh oui, parce que c'est un des seuls sujets que je connais, ça fait très cliché.
Donc les extensions de cils, eh bien oui, ça existe en fait, on rajoute un petit peu. Enfin, je sais pas comment on le fait par contre, c'est une espèce de colle.
Voilà, quand des personnes en ont très peu et qu'elles veulent un petit peu étoffer les choses.
Ah, donc en fait c'est collé aux cils et ça reste de manière permanente.
Des gens qui ont été grands brûlés, enfin des choses comme ça, je pense notamment des gens qui ont plus de cils.
Mais ça peut être aussi des personnes qui ont eu des maladies, des cancers et qui du coup ont perdu. Donc ça peut être une bonne reconstruction pour eux.
Et puis c'est surtout que c'est important d'avoir des cils parce que du coup ça protège quand même au niveau de certains microbes en fait qu'on pourrait attraper au niveau des yeux, je pense à des conjonctivites ou des choses comme ça en fait.
C'est que médical ou c'est que pour la beauté? Je sais pas, sinon les drag queens en mettent.
Allez, on a entendu un peu de tout, certains ont parlé de fossiles, je crois que c'est pas tout à fait pareil et justement on a été posé la question à une spécialiste en esthétique, c'est Maud Ravier, la fondatrice de Maud Dermoesthétique, on l'écoute.
Alors la différence avec les fossiles, c'est que quand vous mettez des fossiles, c'est toute la bande de cils et vous devez la retirer tous les soirs, on colle sur votre ligne de cils. Alors que les extensions de cils, vous avez trois techniques. La première technique qui est extrêmement naturelle, c'est de poser un cil par un cil. Donc vraiment, on est sur du naturel et du long terme. Ensuite, vous avez la deuxième technique qui s'appelle hybride, où là, vous avez moitié des cils à cils ou parfois trois cils en un cil. Et ensuite, on appelle ça le volume russe. Là, c'est vraiment quand vous voulez quelque chose d'extrêmement intense, glamour, peu naturel, moi j'ai envie de dire, mais en tout cas, ça plaît à certaines personnes. Et là, vous avez trois cils sur chacun de vos cils et vous êtes assuré d'avoir vraiment une ligne de cils très, très fournie. Bien évidemment, la pose de cils, c'est éphémère. Il va falloir faire des retouches toutes les trois semaines, tout simplement parce que le cil qui est collé sur votre propre cil, à un moment donné, va tomber. Et donc, il y aura une pousse avec un nouveau cil. Il faudra de nouveau recombler toute la ligne de cils.
Alors Jimmy, puisque vous êtes très très fort dans ces sujets beauté, ça on le sait, en tout cas je sais que vous avez travaillé, il y a quand même des précautions à prendre quand on se fait poser des cils comme ça, extension de cils, il faut faire attention à quoi?
Alors, un, c'est la qualité de la colle, il faut être sûr qu'elle soit testée dermatologiquement, et deuxième conseil qu'on peut vous donner, c'est surtout attention à ces gens sur les réseaux sociaux, les influenceuses, les influenceurs, souvent on les reconnaît puisqu'ils appellent coucou mes petits crumbles, coucou mes petits loups, et bien au mieux ils sont ignorants, au pire ce sont de véritables charlatans qui n'ont que d'intérêt de vous vendre des produits qui vont vous entraîner de graves allergies, donc allez voir des gens professionnels. Ça coûte plus cher, mais c'est de la qualité. Et surtout que vous mettez ça sur vos yeux, donc il faut faire très attention.
Merci Jimmy. Alors les extensions de cils, la plupart du temps, elles sont de couleur noire. Mais pour avoir un regard sublime en été et apporter un peu de couleur, Maud Ravier a un dernier petit conseil pour vous. On l'écoute.
Pour l'originalité de l'été, moi mon petit conseil, c'est d'aller chercher des dégradés de noir et de prune. C'est absolument sublime. Tout au long de l'année, je privilégie le noir, mais c'est vrai que l'été, on peut un peu s'octroyer un peu d'originalité. Donc, chez certaines praticiennes, vous trouverez aussi des tie and dye de cils, c'est absolument sublime.
Voilà pour les conseils de Maud Ravier au micro de Benjamin Lévesque. Alors un petit mot pour finir sur le prix, parce qu'évidemment avoir des yeux de biche, ça a quand même un coût. Il faut savoir que pour des extensions de cils, il faut compter entre 100 et 150 euros. Alors attention, c'est quand même un budget parce qu'il faut les faire, il faut faire des retouches toutes les 3 semaines. Et si vous voulez des cils encore plus sophistiqués, encore plus volumineux, eh bien là c'est le double du prix, donc il faut quand même compter 300 euros environ. Voilà, vous savez tout sur les extensions de cils.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, c'est la chronique sexo. Aujourd'hui, Catherine Blanc va nous parler de certains dégoûts qui peuvent apparaître durant les rapports sexuels. Restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé, le bien-être et la sexo, évidemment, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et Catherine Blanc qui arrive à nos côtés dans ce studio. Catherine Blanc, vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie.
Bonjour Jimmy.
Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question d'Océane. Je vous la lis tout de suite. Chaque fois que je fais l'amour avec mon homme, je lui demande d'éjaculer sur moi et non en moi. Lui trouve cela dégradant, alors que moi je n'y vois rien de sale. Qu'en pensez-vous ? Catherine, d'abord, je ne sais pas trop par quoi commencer.
Non mais déjà, c'est une question, question intéressante.
Alors allez-y, voilà, je n'ai pas vraiment de questions.
Hein. Voilà, mais je me lance toute seule. Alors. Donc, c'est une question intéressante parce que ça pose deux points de vue différents. Il y en a un pour qui l'éjaculat lui paraît suffisamment sale pour que ce soit une attitude dégradante que d'éjaculer sur sa compagne, sur le ventre de sa compagne par exemple, alors que donc ça pose la question de pourquoi le vit-il comme étant quelque chose de sale, pourquoi il fait une confusion avec ce que le corps expulse, à savoir l'urine, les matières fécales, et comme si l'éjaculat est participé de cette idée des éliminations du corps, donc négatives.
Ouais.
Et donc,
il faut les cacher.
Du coup, il faut les cacher. Il ne faut surtout pas avoir une attitude qui s'apparenterait à une agressivité en souillant sa compagne et sa partenaire. Et du coup, il ne veut pas le faire. Peut-être aussi a-t-il les références de la pornographie qui vont quand même beaucoup dans cet axe de domination un peu humiliante et asservissante de la femme. Et donc, de fait, il ne veut pas participer de cela pour des questions d'éthique, mais aussi par des angoisses d'être potentiellement dominant. Mmh. Donc ça, c'est un troisième point.
Jimmy, je crois qu'il voulait dire quelque chose.
Oui.
Très pressé, non, là, je vois sautiller.
Non, mais vous avez parlé de voilà que c'est une souillure et donc ne pas éjaculer à l'intérieur d'elle. Mais excusez-moi, éjaculer sur son visage, c'est pas tellement plus propre, quoi.
Il s'est pas dit que c'était sur l'usage. Moi, j'avais imaginé que c'était sur le ventre, mais peut-être sur le visage.
Ah oui, c'est petit. Ouais, sur...
Mais écoutez, chacun ses références.
Plus loin. Hein,
non, mais j'ai fait une extrapolation. Ma phrase sur moi, elle n'a pas précisé la localisation anatomique.
Et voilà.
Jimmy a les précisions.
Oui, non, là, j'étais un peu effectivement. Vite en besogne. D'accord, non, mais c'est un peu plus compréhensible.
Répondez quand même à Jimmy, parce que c'est important.
Oui, non, je ne pense pas que ce soit ce qu'elle demande, mais peut-être. Mais chacun a la référence de la pornographie, c'est bien ce que je disais.
Voilà, on peut comprendre. De Jimmy.
Non, voilà. On peut
En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut aussi se poser la question pour elle. Pourquoi elle demande-t-elle que ça se fasse hors d'elle et pas en elle?
Oui.
Et là, c'est un tout autre sujet.
On a parlé de monsieur, parlons de madame.
Voilà, c'est un tout autre sujet qui s'éloigne considérablement de l'aspect pornographique et agressif, etc. Mais peut-être son angoisse, justement, de la fécondation. Et donc, le besoin de ne pas... Et puis aussi, peut-être sent-elle que ce qui est à l'extérieur d'elle peut être nettoyé, alors que ce qui est à l'intérieur d'elle, qui pourrait tout aussi être nettoyé, mais le sentiment, les femmes le disent souvent, que ça continue à couler, elles mélangent leur lubrification avec le sperme qui continue à couler, etc. Se sentir plus fondamentalement encombrée, voire souillée, quand la pénétration entraîne une éjaculation interne ou une peur de fécondation, alors qu'à l'extérieur, c'est un peu comme c'est à l'extérieur, il ne s'est rien passé. Un peu comme certaines femmes qui croient que dès lors qu'il n'y a pas eu de pénétration, il n'y a pas eu de sexualité.
Jimmy, encore une question qui va droit au but, s'il vous plaît.
Oui, s'il vous plaît.
Vous parlez de la peur d'avoir un enfant, peut-être donc l'histoire de contraception derrière, mais pour autant, il peut quand même tomber enceinte, même avec du liquide séminal. Donc en fait, cette peur peut-être est aussi, c'est jouer aussi avec le feu.
Il nous ramène ça à la médecine pour qu'on oublie ce qu'il nous a dit juste avant.
Mais oui, il a raison.
Autant utiliser des préservatifs, peut-être que c'est l'alternative pour finalement être tranquille sur tous les plans.
Qu'ils soient contents tous les deux.
Bien sûr, évidemment que ça ne peut pas dire que c'est pour une question de peur d'être fécondé, mais ça peut être aussi une façon en tout cas d'éviter l'intrusion de l'autre avec un sentiment effectivement que dès lors que l'éjaculation se fait à l'extérieur, elle évite. Mais si on veut être effectivement dans un moyens contraceptifs, rien de tel que les moyens contraceptifs, évidemment, mais pour une meilleure maîtrise.
En réalité, il n'y a rien de sale, on est d'accord. Enfin, je veux dire,
Il n'y a absolument rien de sale, mais évidemment que non. Vous imaginez, ça donne naissance à des bébés formidables. Donc, bien sûr que ça n'est pas sale. Ouais. On ne fait pas des bébés avec des cacas et des pipis. Hein. C'est bien avec du sperme, c'est bien avec plein de choses formidables.
Et puis, une douche règle le problème, quoi, de toute façon.
Oui, et puis même, c'est plein de vitamines, c'est plein de minéraux, c'est plein de choses formidables.
Ça sera le sujet d'une autre chronique.
Oui, Top Chef, c'est dans une autre émission. Là, je pense qu'on déborde un peu le sujet.
Mais... Merci. Non, mais ça n'a rien de sale, c'est ce que je voulais dire.
En tout cas, merci, effectivement, Top Chef, ça sera une prochaine fois. Merci pour tous ces conseils et donc à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, dans Sans Rendez-vous, une émission consacrée aux dents des femmes enceintes. Nous verrons qu'il faut absolument bien prendre soin de ses dents, même durant la grossesse. On peut faire pas mal de soins, vous verrez. Tout de suite, place à Mathieu Noël et à son équipé sauvage. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau.
Eh bien, je vois que je vais dire à Pierre Perret finalement que c'est pas la peine qu'il vienne, puisque je vois que vous êtes déjà experte. Vous pouvez rester avec nous, Mélanie. Sinon, Pierre Perret sera l'invité de l'équipé sauvage aujourd'hui.
Bon, bah très bien. Écoutez, merci beaucoup. Je serai là, évidemment. Le docteur Jimmy
pour faire
Mohamed
les cœurs
aussi. Catherine Blanc qui fait la sexo, ça pourra l'intéresser aussi. Et puis vous aussi, surtout, restez sur Europe 1.